voulais d'abord sur la demande de Olivier Marbeuf, penser faire des chansons militaires patriotiques et voir peut-être une chanson par personne, c'est-à-dire rendre chaque personne qui était dans la salle plus nationaliste, mais nationaliste de son propre corps, de sa propre histoire. Et puis, après, je me suis dit que si je faisais ça, ce serait sûrement improvisé, et l'improvisation me fait très mal. Et que c'était mieux de préparer quelque chose. Alors j'ai fait un spectacle il n'y a pas longtemps qui s'appelle Une histoire intime d'Elephant Man, où je parle de traumatisme intime sans parler de choses intimes, en essayant de trouver un juste milieu entre Nietzsche et Gad Elmaleh. Et en fait, j'ai fait tout ça pour essayer de me guérir d'une part de la musique qui m'avait éloigné de mon patriotisme intime, et aussi pour guérir un peu de l'improvisation qui m'emmenait toujours dans des sortes de parenthèses dans les discours, qui faisait que c'était devenu une jouissance de perdre l'assistance et de lui faire bouffer à l'assistant toute la perte que j'avais eue dans ce corps intime. Donc j'ai renoncé aux chansons patriotiques militaires. Il se trouve que les mélodies que je trouve depuis 4-5 ans, elles ont tout un lien, c'est-à-dire elles ont tout un truc de la marche martiale, pas forcément indo-européenne, mais il y a toujours un truc militaire qui revient et je ne sais pas trop pourquoi. Et aussi des obsessions que j'ai depuis enfant, c'est d'arriver dans une gare, genre la gare Montparnasse, et de s'adresser à tout le monde de manière hyper simple, comme si on arrivait dans une salle de classe, sauf que c'est une gare, en disant les enfants, arrêtez-vous 5 minutes, je vous en prie, et là de commencer à dire les choses qu'on a sur le cœur. Mais j'ai toujours pas la force de faire. Alors, j'ai mis de côté les chansons militaires nationaliste. En fait, c'est comme si chaque corps devenait un pays, quoi. C'est-à-dire un pays très vaste. Et je me dis que c'est peut-être une explication à l'inhibition et une sorte de timidité grandissante que j'ai sentie d'abord dans le train et puis après sur la terre ferme. C'est-à-dire une peur de l'autre général qui fait qu'aller vers l'autre, en fait, c'est peut-être pas qu'on avait peur de lui, c'est-à-dire qu'on on sentait que chaque personne, avec son iPhone, son univers, ses emails et ses avatars un peu partout aspergés dans le monde, comme si chaque personne était une entreprise ou un pays en soi, et que commencer à adresser la parole à un pays en soi qu'on voit arriver devant soi, c'est assez compliqué. Parce qu'on ne sait pas à quel service dans le pays s'adresser, quoi. Et quand on voit une personne arriver, une personne en général c'est très vaste, enfin, il y a une carcasse, la peau recouvre le squelette, on a l'impression qu'une personne c'est une petite chose à peu près comme soi. Et en fait on se rend compte que derrière chaque couche de peau, il y a plusieurs entreprises qui travaillent en permanence de manière plus ou moins coordonnée en fonction des corps. Et donc, quand on est face à quelqu'un, on n'a aucun numéro de service qui pourrait nous donner un sous-service et qui pourrait faire qu'on pourrait rentrer aimablement en contact avec la personne. Et ce serait une des raisons pour lesquelles on éloigne son corps de celui des autres, qui serait trop vaste et qui pourrait nous avaler. Et puis, on pourrait plonger dedans, vu que chaque corps serait un pays. On pourrait se mettre à se noyer dans ce pays. D'accord. Et alors, pour un adolescent de 15 ans, par exemple, qui passe sa vie dehors, Paris, au bout d'un moment, ça devient Paris, c'est, je pense qu'en fait, très maladroitement pour le mouvement punk, traîner beaucoup dans la rue, c'était non pas sortir de chez soi pour éviter les conflits avec les parents, mais c'était refaire de Paris un grand appartement. Ou du coup, si on arrive à faire de Paris un grand appartement, appartement, on pourrait y réinviter ses parents, quoi. Vu qu'il y aurait la place pour qu'ils reviennent. Et du coup, quand on traîne beaucoup dans la rue, au bout d'un moment, inévitablement, vu que notre cervelle elle est formatée par les pièces de l'appartement où on est né, inévitablement, Pigalle redeviendrait la salle de bain, un lieu où on s'isole pour aller se branler. Alors, Montparnasse, ce serait un couloir. Doménil, un isoloir, enfin pour les punks chrétiens. Et donc ainsi de suite, c'est-à-dire que une vitre pouvait devenir. Enfin, l'effort qu'on mettait à traîner dans les rues, c'était pas tant serrer le plus de mains de skins et de punks possible, et surtout voir connaître quelques skins nationalistes, parce que ça donne un peu de pétillant à l'époque, les années 80. Si on croise que des punks et qu'on connaît pas de skins, c'est comme si on traînait que dans le milieu babacool et qu'on connaissait aucun mec de la jet set aujourd'hui, enfin une sorte de reproportion comme ça. Donc le skinhead nationaliste des années 80, quand vous lui serrez la main, même si vous partagez pas ses mêmes idées, ça va vous donner un peu l'impression d'être un peu plus pointu dans l'art contemporain. Alors, ça c'est pour un adolescent, pour un enfant de 4 ans, l'Italie, ça peut être un appartement, c'est-à-dire on annonce à un enfant de 4 ans qu'on va partir vivre en Italie, et pour lui l'Italie c'est l'endroit où on arrive à la fin du voyage, donc c'est l'appartement. Quand on sort de l'appartement, dehors on lui dit que c'est Rome, donc c'est un autre mot, un autre son, donc il retient, il essaye de retenir Rome. Et puis, quand il s'isole aux toilettes, cet enfant, vu qu'il retrouve une forme d'isolement, il dit, tiens, ça, c'est la France. Enflammé tout d'un coup par des torpeurs vivaces, le territoire, enfin, refait fondre les limaces et retrouve un tapis soyeux qui revient, abritant ses enfants, ses grands et ses anciens, dans une douleur première, archaïque, primitive, et qui font qu'au lilas on retrouve tout d'un coup hâtive la République autonome de Bagnolet s'en vient soudain affronter les connards comme on mange les Prussiens. Donc j'hésitais en fait entre chansons militaires, des sortes d'introductions de Fidel Castro qui aurait chanté la République privée de chaque corps après avoir chanté l'Internationale prolétaire. Donc Castro qui accepterait avant de mourir de prendre le temps d'écrire une chanson pour chaque personne sur Terre, mais nationaliste, communiste, qui redonne un peu, qui fait l'effet un peu d'un gant en crin quand on sort de la douche à chaque corps anesthésié d'Occident et d'Orient. Soit, par exemple, parler de la théorie, mais ça je vais peut-être le faire, donc ce serait Fine Tanguy Tunis, une petite brochure que j'ai trouvée par terre à Paris, en même temps que je vais vous lire, Fidel Castro, des textes divers, ça je m'étais dit c'est possible, et ce qui était très compliqué, c'est que Olivier m'a présenté ce sujet comme histoire, géographie, donc monde intérieur, extérieur, le fait que ce ne serait plus des problèmes de nation, mais juste des problèmes de circulation et d'espace-temps entre les problèmes, entre les personnes. Donc en fait, ce qu'on penserait, par exemple, si je résume un peu ce qu'il m'a dit, si nous, on dirait que le problème, ce serait faire cohabiter des gens de culture ou d'horizons différents, ce qui mènerait à l'ignominie. Pardon. Du vivre ensemble, ce serait par exemple de dire que c'est pas lui une autre culture, qu'il aurait juste un autre espace-temps, ou alors il a le même espace mais son temps à lui de 85, il n'avait pas encore digéré le temps de son père de 36, et il faudrait que son père se mette à digérer la moitié du temps du 19e siècle pour pouvoir adresser la parole à ce mec, donc avant de rentrer à la poste. Bon. Et puis il y avait une autre théorie qui était que quand quelque chose nous énerve, c'est une sensation comme ça, ou que quelque chose nous, qu'on sent du danger dans une rue, mais des fois ça se passe un quart de seconde, mais c'est un danger, on ne sait pas si ça vient de l'intérieur ou de l'extérieur. En fait, notre territoire intérieur se rétrécit. Donc, en fait, notre pays, donc, qui est enjolivé par toutes les administrations internes qu'on a, ce pays, d'un coup, se rétrécit et notre territoire devient une sorte de long tuyau. Puis après, j'avais pensé à une série de petits hymnes nationaux avec des accents différents. Mais pour le moment, je vais donner un exemple de chanson militaire spontanée que j'ai eue en arrivant. Alors, il se passe toujours des choses à la seconde même où on arrive dans un pays, des choses un peu honteuses qui se passent dans la tête et qui si on ne les note pas ou qu'on n'en a pas trace, après c'est fini. C'est-à-dire, c'est le frottement entre l'état psychique qu'on a et de ce qu'on a vécu les derniers jours et l'arrivée dans ce pays qui fabrique une sorte de troisième œil. Qui peut éclairer sur certaines choses et qu'il faudrait noter avant de revenir vers les autres et de faire joujou avec eux. Donc, Esther, je vais te demander, si tu veux bien, de diffuser un petit film qui est L'arrivée à Tunis avec François Tanguy. Donc, c'est, ceux qui ne connaissent pas, c'est un metteur en scène, scénographe de théâtre très actif. Et avec une de ses comédiennes, et je leur chante, vous allez voir un truc. Alors, elle, Laurence, elle a une certaine attitude, et François Tanguy, lui, fait semblant pendant tout le temps que ça dure de composer un numéro sur son portable. Il est anesthésié comme un poulpe iranien.
Rendez-vous, nous, le soleil de Tunis, rendez-nous les paniers, les oliveraies, rendez-nous les plus beaux des délices que Napoléon avait repris aux Anglais. Grand François, regardez vers l'avenir, le grand ciel bleu de Ben Ali, revenez pour chanter même Shakespeare, reviendra respirer jusqu'ici. Rendez-nous le soleil de Tunis, mettez-le au pied du Périgord, rendez-nous le Cantal, l'armistice, rendez-nous les matadors, rendez-nous la mer bleue, les délices, rendez-nous toutes les oliveraies. Rendez-nous l'huile d'olive et les épices, nous qui sommes français.
Il faudrait dur d'une heure.
Il est dur à faire marrer François. Il faut se lever de bonne heure. Quoi.
Alors il est où ?
J'ai beau mettre la casquette de Coluche, le teckel ne sourcille pas. Il bloque sur son iPhone. L'iPhone 8-7, dernier cri, de François Tanguy. Le smartphone national. Voici l'un des derniers vestiges aztèques de Tunis.
Donc voilà, c'était pour vous donner l'exemple de l'indisposition d'un homme pourtant ouvert de théâtre face à des chansons spontanées post-coloniales. Alors je vais vous lire une brochure que j'ai trouvée à Paris. Alors je reviens à Paris et tout m'étonne et tout me fait beaucoup d'effet, mais ça c'était incroyable l'effet que ça m'a fait. C'est un vrai c'était une petite brochure qui était apparemment je sais pas s'ils vont l'utiliser, mais édité en partenariat entre la RATP et la mairie de Paris, d'un guide touristique qui sera mis en place au moment du Grand Paris. Donc, apparemment, c'est une brochure qui donne des conseils aux... En fait, c'est la personne qui commencerait la visite qui lirait ça donc aux touristes. Alors, ils appellent le Grand Paris. Enfin, en fait, c'est une petite. Enfin, bon, je sais pas trop. Bon. Alors, il dit bienvenue apparemment dans la République de la face. Le blanc des deux yeux est sur notre drapeau depuis l'unification du pays il y a 5 ans. Comme vous le savez, nous sommes le premier pays au monde qui a inscrit dans sa constitution en priorité la lutte contre le harcèlement. Donc ça c'est pas hyper, c'est étonnant au tout début, mais ça rejoint le vivre ensemble. Enfin, donc, une sorte de lutte contre la séparation des choses, pas forcément des corps de métier, des créneaux, des réseaux et des domaines du réseau, et des différents domaines du créneau avant de rentrer dans le réseau, tout ce genre de choses dont parfois on se dit que les institutions peuvent souffrir aussi d'une forme de morcellement, même à l'intérieur du propre corps, des bâtiments. Alors ça continue par « Malheureusement, comme vous le savez, tout autour de nous, ce sont des clubs privés qui dominent. Notre première lutte nationale a été l'expression, se battre contre l'expression en termes de. » Donc ça, je pense que ça finit par remonter aux oreilles de la mairie de Paris, c'est-à-dire que le fait de dire « en termes de couleur », quand deux personnes parlent, par exemple, ils préparent une soirée, ils disent, moi, je trouve qu'en termes de budget, comme ça, en termes de couleur, moi, je serais plutôt pour le rouge. En termes d'organisation, tu avais dit que c'était plutôt toi. En termes de bouffe, moi, franchement, je l'ai fait déjà la dernière fois. Et puis, en termes de jauge, moi, je ferais bien une jauge entre 10 et 120, comme ça. Et en termes de l'état psychique de chaque personne le soir, ça on ne peut pas prévoir. En termes de préparation, ben ça c'est ce qu'on est en train de faire là. Donc donc en fait, je pense que la mairie de Paris s'est rendu compte que ce genre d'expression comme en termes de pourrissait en fait les rapports, même entre gens nés dans la même ville. Donc c'est comme ça que j'ai interprété ça. Alors le guide continue donc aux touristes en disant pour vos achats, donc il prend en considération que les gens à un moment dans la visite auront envie de partir dans la ville, prévoir un petit moment quoi, pour les achats. Et là alors il dit donc pour les achats il dit je vous conseille plutôt la République autonome d'Aubervilliers pour ce qui est câbles et clés USB. C'est-à-dire qu'ils considèrent que pour tout ce qui est câbles, clés USB, matériel informatique, c'est plutôt la République autonome de Verviers. Et ils précisent pour ce qui est alimentation, rendez-vous dans le territoire de Belleville. Vous serez bien accueillis. On y trouve tous les produits exportés des appartements de la Grande Couronne par téléphérique. Et on trouve aussi bien des produits frais, très frais, parce que tous les produits viennent d'appartements privés. Donc, on peut du coup imaginer que les produits frais donnés aux gens qui veulent vraiment des produits d'export, en fait, dans ce cas-là, ça voudrait dire qu'ils considèrent que l'import-export, c'est dans la même ville. Et c'est-à-dire que les gens exportent leur propre corps ou exportent leurs propres produits qu'ils ont importés ou pas au préalable. Ça, c'est... On ne peut pas du tout savoir. Et donc, du coup, les produits consommables seraient des produits, mais les produits exportés, ce qu'on appellerait les produits exportés, seraient les produits qui viennent des frigos privés des gens. Donc, du coup, pour le coup, une variété immense. Et ça continue. Une recommandation importante sur le trajet, avant d'adresser la parole à n'importe qui, étant donné que très vite, vous ne saurez plus qui vient d'où, durant votre trajet. C'est-à-dire que les personnes visitant la ville ne peuvent pas savoir d'où vient chaque personne qu'elles croisent. Enfin, c'est assez clair, ça. Donc avant d'adresser la parole à n'importe qui, étant donné que très vite vous ne saurez plus, je le répète parce que c'est pas très clair pour tout le monde, vous ne saurez plus qui vient d'où. Et donc ça peut être assez déstabilisant. Assurez-vous de la vitesse ou de la lenteur de la vision de la personne. C'est-à-dire que chaque personne que vous croisez, essayez de sentir sa vitesse ou sa lenteur d'appréhension du décor qui l'entoure, tout simplement. Et si vous ne faites pas attention, vous pourrez vous prendre un point dans la gueule, mais alors qui peut arriver au ralenti et dont souffriront vos petits-enfants. Et vous-même, vous ne sentirez rien. Mais donc là, ils préviennent bien que, a priori, ce n'est pas dangereux, et que s'il y a un affrontement, une collision, un conflit avec une personne que les visiteurs ne connaissent pas, s'ils se prennent un point dans la gueule, s'ils ont affaire à quelqu'un qui vit dans un espace-temps très lent, le coup de poing de la personne ne parviendra pas directement au touriste, mais traversera plusieurs époques, et ce sera en fait en définitive par rebondissant, par effet de ricochet très logique, par exemple un nouveau-né d'un arrière-petit-enfant qui se prendra le poing dans la gueule juste le jour de l'accouchement. Donc en fait, ils préviennent de ça. C'est cool de prévenir. Après, moi, je trouve, franchement, mon idée à moi, c'est que trop prévenir les gens de problèmes qui pourraient arriver, ça montre une certaine bienveillance, mais ça peut faire que les gens aussi ne sont pas détendus quand on commence. Donc, il continue, ça c'est donc le discours du guide. Donc, il dit bien, le duché autonome de la voie publique s'est constitué il y a maintenant 2 ans, donc là il fait une sorte d'explication géographique du territoire. Ses habitants gèrent uniquement les extérieurs. Donc ça, je n'ai pas le duché. Voilà, ça veut dire qu'en fait, dans la constitution de ce pays, enfin, de cette région, de ce territoire, c'est très confus. Il y a en fait un pays dans le pays qui serait fondé et qui serait un duché autonome de la voie publique. Mais donc ça voudrait dire que tous les lieux de passage, rue, impasse, boulevard, seraient gérés par une administration abstraite. Quoi, je sais pas. Donc, alors. Tout ce qui est boulevard, intra-appartement, sont gérés par une toute autre société dont le siège est à Séoul. Parce qu'il n'y a pas que... Parce que ça s'est construit quand même très vite, ce Grand Paris, et qu'ils ont dû... Il y avait déjà des délocalisations qui étaient faites en amont. Donc ils ne pouvaient pas tout condenser pour essayer de reformer ce noyau qui est ce troisième œil, je vous le dis, qui est l'œil qui vous regarde et qui est... ni l'œil de vos parents morts, je ne sais pas si vos parents sont morts ou pas, là, ça doit dépendre des gens, j'imagine, dans la salle, et ni l'œil de Dieu, mais qui est une sorte de troisième œil qui vient donner un noyau au fond du ventre et qui permet une sorte d'unification de son corps avec la personne, ce que j'ai pu comprendre par là. Donc, il précise l'histoire du siège à Séoul, s'il y en a qui s'intéressent, je peux retrouver le contact via l'ambassade de Bretagne. Donc on imagine qu'en fait, en avançant, en lisant le prospectus, qu'en fait les régions sont qu'il y a une sorte de collision et d'emmanchement, comme on dit dans le milieu. tous les gens qui ont travaillé sur Bartok, etc. On parlait de tuilage avant la musique contemporaine, mais on parle plus d'emmanchement, c'est-à-dire on pourrait imaginer le bras décharné de Frankenstein qui veut à tout prix rentrer dans le tunnel sous la manche du drapé d'Elephant Man, et en se croisant, il crée une mélodie entière, son tierce. Alors là, il y a un autre avertissement, il dit « faites attention à la vitesse d'espace-temps de la zone ». Et pensez bien à changer votre plateau temporel Donc vous avez une manette sous la poche du Kawaii. Et là, le guide serveur, là, il y avait un petit schéma que je n'ai pas mis, c'est-à-dire que comme dans les avions, en fait, ils indiquent en fait, il y a la notice pour retrouver sous la poche du Kawaii que le guide a distribué. Et cette petite manette permet une réadaptation temporaire en fonction des individus que vous allez croiser lors de la visite. Ça, c'est en cas d'urgence. Pour atteindre la République d'Odéon, j'encourage plutôt un passage au checkpoint Châtelet en passant par le comté de Rivoli. Pour y entrer, vous devez désormais simplement fournir une preuve que vous êtes déjà sorti de votre corps. Donc il faut dans ce cas-là une preuve pour prouver que vous êtes déjà sorti de votre corps. Il y a certaines personnes qui ont peur de sortir de leur corps et on peut imaginer qu'étant donné l'éloignement entre nous et les cérémonies vaudou, sortir de son corps pour un francilien moyen et être capable de sortir de son corps à tout moment de la journée ou alors d'accepter d'être envahi, surenvahi, submergé par l'imagination de la famille des autres qui croisent dans la rue, n'arrive pas à n'importe qui, n'importe quand. C'est pour ça que dans la brochure, il nous précise.
Alors, ça effraie un peu les touristes d'entendre ça. De parler de sortir de son corps ou de rentrer dans son corps. Et là, il explique, je vous dis ça simplement parce que des touristes avaient franchi la ligne du royaume de Vavin-Saint-Sulpice sans avoir été habitués au préalable à sortir de leur corps. Et comme c'est une zone où les âmes se sont absentées de leur corps, là-bas, la frange majoritaire de la population est constituée de cadres en déplacement. Et pour eux, ça a été une grande surprise qui aurait pu faire beaucoup, beaucoup de dégâts. Enfin, disons que pour des gens pas habitués à sortir de leur corps, arriver dans une zone où la majorité de la population sont des cadres en déplacement et où du coup eux sont habitués à sortir de leur corps de manière inconsciente, ça peut faire des sortes des AVC matinaux. Et puis là, il précise aussi que votre fonction 4G dans cette zone n'est absolument plus nécessaire, à moins que certains d'entre vous, trop fragiles, aient besoin d'un retour immédiat vers une boîte mail, comme une boîte mail, on y est. Comme une métaphore d'un abri d'urgence, c'est-à-dire d'une maison numérique, quoi. Avec, bien sûr, évidemment, les anoraks en pixels fournis, tout ce qu'il faut pour se sentir dans un cocon, comme devant son ordinateur. Je vous rappelle que malheureusement, la Tour Eiffel, qui appartient désormais au duc de Ponto Combo depuis 2 mois, ne pourra pas faire partie de la visite. Je vous demanderai, pour finir avant la visite, de bien vouloir faire rapatrier vos profils sur Internet, quelque part dans vos poches, car nous sommes ici sur un territoire, comme je vous l'ai dit, qui lutte contre la dispersion depuis maintenant 30 ans et qui tolère beaucoup de choses, mais ne sait plus affronter l'absence du corps générée par la prolifération de profils exilés. Donc voilà pour le prospectus que je viens de vous lire. En fait, c'était moi qui l'avais rédigé, donc avec l'aide du Conseil général d'Ille-et-Vilaine d'Île-de-France. Nous avons voulu, à travers ce prospectus, donner une idée de ce que pourrait être le Grand Paris. Pour certains, ça semblera un peu farfelu. D'autres y verront des choses réelles et d'autres y verront une projection de leur propre fantasme ou désir au choix. Je reprends une théorie de Frédéric Poulet parce que, avant de travailler sur le Grand Paris, j'ai demandé leur avis à plusieurs franciliens et certaines personnes m'ont dit que Paris n'existait pas pour eux. C'est le cas de Fred Poulet qui est né par exemple, lui, à Dijon et qui dit qu'il a apprécié Paris parce que Paris pour lui n'était que la somme de projection des personnes, c'est-à-dire que la ville n'existe pas. Il n'y a pas de gens à proprement parler de mentalité parisienne, mais c'est une sorte de grosse cervelle, d'ailleurs Paris a la forme d'une cervelle, qui est fabriquée par la projection des autres.
Et donc tout ce qui s'y passe est fou. Alors ça, c'est moi qui l'avais rajouté personnellement à sa théorie. Voilà. Donc je vais maintenant... ce n'est pas du tout mon habitude de prendre la place des artistes. Hein. D'habitude, je reste dans mon territoire, dans mon domaine, mais je suis ravi d'avoir un micro et j'y prends goût, j'y prends plaisir. Alors, j'ai envie de chanter. Hein. Ça me vient, disons qu'avant de lire la brochure, je n'aurais pas souhaité le faire, c'était un peu brusque. Et parfois, la musique m'enferme. Hein, pour une fois que j'avais chanté une chanson d'Elvis, revenir et parler sincèrement aux gens qui sont là, c'est impossible. Il faudrait avoir appris à être 5-6 personnes à la fois. Enfin, bon. Donc, maintenant que je suis un peu détendu, vous me faites l'effet d'un petit verre de ponche. Voilà, vous tous. Hein. Alors, je vous en prie. Et d'ailleurs, ça me donnerait presque envie d'en boire.
En el país fuerte de tanta dominación hecha y puesta acá en la República Nacional de los Cuerpos Privados, me di cuenta que el sabor infinito de los niños podía abrir una puerta, que podía conseguir un nuevo método para un nacionalismo individual. Muy bien hecho. Así me di cuenta que con la influencia de varios países africanos se podía inventar un modo de, ¿cómo decirse? Un modo de nacionalizarse a sí mismo, de encontrar en su cuerpo un modo de decir. Conseguir un cuerpo nuevo sin tener vergüenza de acostumbrarse a su propio nacionalismo personal, se tendría que hacer un método muy, muy sencillo dictado por los niños de Cuba antes que Europa se ponga a multiplicar de una cierta manera el orgullo de la separación de... classe d'âge et de métier. Estuviera lindo ver en los bancos de París, de nuevo como lo vi en el 1972, unos niños que se pongan a hablar, charlar, jugar, cantar, decir, 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 cantar, jugar de nuevo con unos niños muy pequeños, sin que sea un proyecto, digamos, de rehabilitación a una salsa muy viciosa hecha por el Partido Socialista Francés. Sería, bueno, tendría que traducir eso. Sería que, por ejemplo, el hecho, le fait de poner, de mettre juntos, ensemble, unos viejitos, c'est-à-dire des très vieilles personnes sur en los bancos públicos, sur les bancs publics, y de mezclarlos y de les mélanger avec des nouveaux-nés, que no sea más un concepto para hacer un reportaje especial en France 3. Disons qu'en gros, ce qu'il veut dire, c'est que de mettre ensemble dans le même local ou la même salle polyvalente des vieillards et des nouveau-nés ou des enfants, ce ne soit pas juste une sorte d'acte, militant pour un reportage télévisé.
Repubblica Nazionale del Cuerpo Intimo. Repubblica Nazionale del Dover de Cada Uno. De ponerse, acostumbrarse a la diferencia total, violenta y muy miedosa de cada cuerpo de uno sobre el otro. Exijo del mundo nacional, si tiene un respeto más lindo y más puro para la raza humana, que no tiene ninguna comparación con otra raza en el mundo. Me gustaría decirles que tendríamos que ponernos en cada barrio una canción por el país de cada cuerpo íntimo nacional, en cada barrio.
C'était que, en fait, il y a un hymne national qui soit fait pour chaque corps et que donc les gens du quartier entonnent, en fait, ouais, non, c'est vrai. Bah, en fait, ou que même les gens de la ville entière entament le chant national de chaque personne, donc il y aurait une liste de personnes à l'angle de chaque rue, et il y aurait un hymne national par personne. Alors, il y a eu aussi une idée de la mairie de Paris qui s'est bien rendu compte aussi du problème, ça, par rapport à la construction du Grand Paris. Et il y a eu une proposition qui n'a pas non plus été tenue, c'était de fabriquer un blason en broderie magnifique qui prend 3-4 ans à faire, qui aurait été fait, je pense, dans les villes à Aubusson. Vous savez qu'à Aubusson, c'est là que, qu'on dit, selon la légende, que McIntosh aurait eu une idée de développement assez forte. C'est-à-dire que, comme le dit Popeye, aussi un peintre qui fait beaucoup de théories mystiques à une époque des années 80 sous LSD, lui, par exemple, pense que les ordinateurs, c'est un mélange. En fait, c'est pour dédramatiser un peu le discours alarmiste qu'il y a sur les écrans et les ordinateurs. Lui dit tout simplement que les ordinateurs sont un mélange de tapisserie et de vitraux. Parce que les pixels, ce serait de la tapisserie. Donc chaque point de tapisserie serait les pixels. Et les vitraux, parce que la lumière dans un ordinateur vient de derrière. Même si on la voit devant nos yeux, elle vient en fait de derrière l'écran. Voilà. Donc là, l'idée, ça aurait été en reprenant des techniques de pixels ou de broderie, je ne sais pas trop, de faire un blason d'un pays national, donc de rendre nationaliste chaque personne, donc que chaque personne soit presque, mais pas nationaliste au sens, pas que chaque personne soit réellement nazie à proprement parler, enfin, d'une certaine manière, elle soit extrémiste de sa propre histoire intime. C'est-à-dire que sa propre histoire intime, l'odeur qu'il y avait dans la cuisine quand l'enfant était petit, le bruit que faisait la bouche du père quand il mangeait sa biscotte et qui fait que la personne avait envie de tuer son père, que tout ça soit représenté sur le blason derrière le blouson. Et d'ailleurs, je sais plus, il y a un type qui avait fait un jeu de mots blason, blouson, qui était pour le coup pas du tout approprié à la situation. Et que chaque personne est donc en schéma, en symbolique, les traumas de son enfance qui ferait que on accepterait d'une certaine manière plus la différence qu'avec des slogans comme ce fameux « J'ai beaucoup de mal à dire ça »,« Le vivre ensemble voilà. ». Et puis, ah oui, il y avait une autre idée qui était un peu plus doux que « Le vivre ensemble », qui était très simple, qui était « Mourir ensemble ». Donc ça, parce que ça, c'était plus unifié. Parce que vivre ensemble, entre le monde, c'est compliqué. Les gens peuvent dire, oui, d'accord, tendre vers le vivre ensemble, mais au jour le jour, moi, je déteste les gens de ma rue, donc c'est compliqué. Donc c'est pas super motivant, on voit pas comment s'y prendre. Par contre, mourir ensemble, ce serait un truc, déjà, c'est vrai. C'est-à-dire que ceux qui partent en premier attendent plus ou moins les autres, je ne sais pas. Et qu'au bout d'un moment, ça fait la grande purée musulmane universelle, invisible, où enfin on est tous invités à la même free party avec tous les gens qui ont vécu largement avant nous. Voilà. Donc ça, c'était pour ça. Une chanson militaire pour chaque personne, ça je ne vais pas faire. Parce que ça disperserait beaucoup, et surtout moins qu'il y ait besoin de rassemblement. Donc je vais me servir de vous un peu égoïstement pour me rassembler plutôt que de finir en miettes et me demander demain ce que je vais faire le surlendemain. Voilà, ça c'est un peu narcissique, mais c'est dit. Alors, des bouts de texte divers. Ala Havane, Dounia, 4 ans, dit qu'elle a peur des monstres seuls dans sa chambre. Fabrice, 42 ans, dit qu'en grandissant, les monstres disparaissent en moins de 2. Cécile, 43 ans, répond qu'après, les grands payent très cher pour tenter de trouver quelques monstres. Et c'est pour ça que la culture marche si bien, c'est qu'en fait, les adultes, quand ils vont voir des spectacles, c'est pour essayer de retrouver des sensations au moins aussi fortes que les monstres qu'ils ressentaient dans le noir, place de Ménil, dans un deux pièces, ou à Poitiers, ou à Vierzon. Yo soy, et là il y avait un type qui était arrivé qui avait écrit Yo soy deprimido, pero con orgullo y placer. Un type qui était arrivé d'un coup et qui a dit Moi je suis déprimé avec fierté et plaisir. Alors, on expérimente une situation qui se poursuit par un état qui semble exceptionnel comme beaucoup d'états. Par peur de ne pas le retrouver, cet état, je le nomme. Alors, cet état, je le nomme, je lui donne un nom, d'une manière ou d'une autre. Mais une fois posé le nom de cet état, je pense retrouver cet état en prononçant son nom, mais l'état ne vient plus. Il n'obéit pas comme un chien, car il ne nous appartient pas, cet état. Je me retrouve alors perdu avec mon sac plein de noms au bord de la route, à la frontière entre trois états. Il ne faut pas bouger dans ce rythme, car quand personne ne bouge, il bouge tout seul, alors que si quelqu'un bouge, tout se casse la gueule. Alors ça, c'est l'explication de la musique... une musique un peu de rassemblement et de guérison qui est la musique qui vient des Yoruba qui est à Cuba. Et donc ces trois tambours, le tambour mère, le tambour plutôt moyen, il y en a peut-être qui connaissent leur nom exact, enfin il y a la personne qui est au milieu qui a le tambour mère, un plus moyen d'un côté et un plus petit là. Alors ce qui est très drôle, c'est quand vous jouez avec des musiciens bata, s'ils veulent bien qu'un accepter un métropolitain français pour jouer dans des trucs comme ça qui servent à guérir, et c'est pas de la funk pour les Montmartre. Donc eux, ils disent, ce qui est très drôle, c'est qu'une fois que le rythme groove vraiment entre les tambours, on l'arrête. Alors que nous, on aurait tendance à penser que quand un rythme part vraiment, il faut le continuer parce que c'est la joie, et on va tous être dedans et tout. Et eux, non, parce que le rythme sert à inviter un dieu qui va guérir un problème psychique précis. Donc une fois que le dieu est venu, on continue pas à faire la fête. Si on a réussi à le faire venir, on arrête le rythme. Alors que moi, par exemple, je voulais continuer à faire du rockabilly. Alors, les blagues. Voilà, ensuite quelque chose qui se prend au sérieux, quel soulagement, personne n'est arrivé à son but, tous peuvent se perdre et s'éloigner de leur corps et de leur histoire à tout moment. Quel soulagement, tout le monde peut s'éloigner de son corps et de son histoire à tout moment. Rien n'est jamais joué. Ouf, pas de gagnant. Une fois cela une fois sera, une fois ce ralavement de façade, ce sera radicalement éprouvé. Je m'autorise à m'entendre et à l'oublier. Alors, il y a aussi un Français à l'aéroport, donc, qui, lui, n'avait pas de... de, donc encore eu de blason doré de sa propre, de ses propres traumas sur le blouson, parce qu'il a dit un truc qui pourrait faire partie d'un nouvel hymne national français. Il a montré du menton une cubaine aux fesses très rondes, et en disant à son copain, t'inquiète pas, elle le sait, elle le sait. T'inquiète, elle le sait, elle le sait. En fait, c'était t'inquiète qu'elle le sait, qu'elle est bonne. Enfin, elle le sait qu'elle est bonne. Analysons donc cette phrase précautionneusement. En général, l'ironie moqueuse de tout ce qui dépasse et la géniardise automatisée, regarde-le lui, regarde-la elle, et donc c'est, il partait du coup ce gars du principe que t'inquiète, elle est bonne. C'est-à-dire, elle sait, t'inquiète, elle le sait. Ça veut dire que t'inquiète pas trop parce qu'elle le sait. Alors quoi ? Eh bien, qu'elle est bonne. Mais donc, elle s'inquiète pas. Mais lui, il s'inquiète qu'elle soit bonne. Mais il voudrait qu'elle, elle aussi, elle s'inquiète d'être elle-même bonne et de le savoir avant que lui l'ait vu, vu qu'elle, elle s'était déjà vue bonne. Non. Lui, il était arrivé, donc il l'avait vue bonne, et pour rééquilibrer le fait qu'il l'avait vue bonne, ce qui lui faisait pas mal d'effet, il espérait qu'elle aussi, elle s'était vue bonne, pour que ça fasse, que ça crée un équilibre qui aurait ressemblé au tapis roulant des aéroports où il aurait pu continuer à avancer, enregistrer ses bagages. Je pense que c'est un truc comme ça. Je lis un truc sur le Brésil dans le train, et ce que je ressens ne devient ni moi, ni le train. Ni le Brésil, mais une quatrième chose insaisissable qui est un mélange à peu près de ces trois-là. Je n'ai pas à choisir mon camp, j'ai les blousons noirs arabes des bidonvilles de Nanterre dans le sang, j'ai les sabots d'Inde aussi qui passent et circulent. Mais je ne suis pas internationaliste, ni altermondialiste. Je veux juste des bains publics et des sources d'eau chaude à volonté, comme les buffets chinois où les histoires enterrées reviennent à la surface dans la bouche de ceux qui se baignent côte à côte. Je sens quand des personnes ont une distorsion commune, ils se fuient. J'imagine que la solitude était, avant les téléphones portables jusqu'à il y a peu, la solitude était bien plus forte, plus dure qu'aujourd'hui. Mais elle est quand même aujourd'hui fabriquée avec les mêmes outils pour tous. Ça pourrait remplacer le vivre ensemble. Quoi. Les mêmes outils pour tous. Un truc comme ça, quoi. Avec des petits, une tenaille, un pixel au-dessus de chaque porte. Ils ont les mêmes outils d'éloignement les uns les autres. Ils se méprisent d'avoir ces mêmes outils d'éloignement. Ils préféraient en avoir des différents, des outils d'éloignement. C'est-à-dire, moi j'ai un outil d'éloignement en métal, mais le mien est en plastique. Mon outil d'éloignement, je l'ai acheté à République d'Aubervilliers en 1975. Et ton outil d'éloignement, toi, il est un peu chewing-gum, il est un peu trop lance-pierre. Moi, je préfère un truc compact en plastique qui dure 15 ans. Parce que les outils d'éloignement, normalement, ils dureront, aussi, quand ils seront vraiment bien fabriqués, ils pourront être fabriqués, être aussi solides que des machines à laver Miel. Miel, qui est la seule marque de machine à laver qui dure vraiment plus de 10 ans. Toutes les pièces qui constituent la machine sont fabriquées dans le même... à la même matrice, quoi, en Allemagne, je sais pas. Donc alors, ils préféreraient en avoir des... Là, on ne sait pas qui parle, depuis tout à l'heure. Ils préfèrent en avoir des différents, mais ça les effraie, ils ont l'impression qu'ils seraient plus seuls. Peut-être, mais ils seraient aussi plus solides. Ça, c'est quelqu'un qui a dit ça. Et alors, moi, je réponds, c'est qui, il ? Et puis l'autre dit, c'est nous. Ah, et qui parle ? Et là, moi, je dis, moi, je te parle à toi, c'est moi qui te parle.